Pour l'Afghanistan, c'est un geste très courageux et c'est comme si elles signaient un peu leur propre assassinat, disparition de la famille, parce que malheureusement, l'Afghanistan, c'est un pays où le camp dira-t-on et le regard du voisin de la famille est très important. Donc si une femme en arrive à ce point de quitter son foyer, c'est-à-dire d'être complètement mise sur le banc de la société et par sa famille et par son village et par la société, c'est qu'elle en arrive vraiment à un cas d'extrême violence comme on ne peut pas l'imaginer. C'est comme aussi toutes ces femmes qui se brûlent aussi, toutes ces femmes qui se tuent dont on ne connaît pas les pourcentages.
Quand vous parlez de cette violence, on parle de violence conjugale, c'est quoi les causes de ces départs?
Quand je parle de violence, c'est toute forme de violence au niveau de la famille, du foyer. Alors, on est parti du mariage forcé. Ça veut dire aussi des très, très jeunes filles mariées à des très vieux monsieur qui presque achètent la jeune fille à la famille qui meurt de faim et qui vendent la jeune fille de 12 ans, 10 ans, 15 ans à un très vieux monsieur qui a un peu plus d'argent et qui donne de l'argent à la famille. Après, cette femme mariée, elle peut subir toute la journée le travail forcé, elle peut suivre toutes les formes de violence conjugale qu'on connaît tous. Mais après, ça peut être aussi une femme qui subit la violence tout simplement parce que sa fille a une vie un peu plus légère, c'est-à-dire que le compte dira-t-on du voisin qui n'est pas content, de l'oncle qui n'est pas content, du grand-père qui n'est pas content, tout tombe en fait sur la femme. Ou alors, tout simplement, un autre exemple, une femme qui trouve un travail dans le village et qui va sortir pour apporter de quoi faire manger à ses enfants et que le mari rentre violent parce que lui, il n'a pas de travail et que c'est la misère et qu'il ne supporte pas le regard de l'entourage parce que sa femme travaille, donc elle va subir en plus la violence. Je vous donne un exemple. Nous avons, dans le cadre d'Afghanistan Libre, ouvert un lycée dans un village dans la vallée du Panjshir. Donc, bien sûr, on a formé et pris les femmes les plus instruites du village pour qu'elles deviennent des institutrices. Et donc, on s'est dit, mais c'est formidable. Et les familles, au moins, qui sont tout proches de l'école, bah, ils ont un salaire de cette institutrice. Au bout de 3 mois, je voyais une de nos institutrices qui arrivait avec l'œil au bord noir, avec une fois une jambe cassée, etc. Et c'était le mari, qui était un ancien combattant contre les soviétiques et contre les talibans, qui n'avait plus de travail, et qui, voyant sa femme comme institutrice, bien sûr, c'était bien qu'elle apporte un salaire, mais sauf qu'au bout de 3 mois, cette honte du villageois, des voisins, de la famille qui disait « toi tu fais rien et c'est ta femme qui apporte à manger » faisait qu'il était violent alors qu'il n'a jamais été contre sa femme et qu'il la battait. Et donc il a fallu prendre ça en considération, aller rencontrer ce monsieur, lui trouver un travail dans le village, etc. pour donner une dignité, si vous voulez, à cet homme, pour qu'il s'arrête d'être violent avec sa femme et parce que pour que lui aussi il trouve une existence dans cette société. Ça c'est le cas le moins pire. Après, vous avez un peuple analphabète reculé dans les fins fonds des villages où une femme, c'est comme une bête. Ça se vend sur certaines places de marché en Afghanistan comme une vache ou comme une chèvre. Et malheureusement, c'est ça la réalité des femmes afghanes aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Afghanistan, les femmes, ce sont les derniers soucis de tout le monde, que ce soit le gouvernement, les organisations qui sont sur place. Donc on met sur le dos de la religion, de la culture, tout ce qu'on peut reprocher à une femme pour lui rendre la vie le plus pire possible au quotidien.
Vu d'Europe, on a plutôt l'impression que les mauvais traitements sont le fait des seuls talibans. Est-ce que c'est le cas?
Les talibans, ils n'ont absolument pas arrangé les choses. Ils ont rendu la société encore... Je pense que c'était le régime le plus terrible que connaisse l'humanité de nos jours. Simplement, les talibans, ils reviennent. Quand ils reviennent, la première cible, ce sont les femmes aussi, qui se voient jeter de l'acide sur le visage parce qu'elles vont aller à l'école. Est-ce que jeter de l'acide... ça ne tue pas, mais ça rend une femme, vis-à-vis du regard de l'autre, encore plus terrible à supporter sa vie au quotidien. Et ça, on en a des centaines de cas. Et c'est vrai aussi que la société traditionnelle afghane, y compris dans les grandes villes, on n'accorde pas beaucoup d'importance à la femme. C'est la femme est considérée comme quelqu'un qui travaille, qui fait des enfants et qui doit faire tous les travaux les plus forcés, que ce soit dans les champs ou à la maison. Et c'est vrai que dès que quelque chose qui ne va pas dans une société, ce sont les femmes qui sont les premières victimes.
Pour en revenir à ces femmes qui fuient, quand elles le font, est-ce qu'elles ont un espoir? Est-ce qu'il existe par exemple des centres pour les accueillir?
Non, je pense qu'il faut que vous mesuriez une chose, c'est que l'Afghanistan, c'est quand même un pays où le poids de la tradition, ce sont des chaînes qui enchaînent les pieds des hommes et des femmes. Et une femme qui sort de chez elle, elle n'a absolument aucun recours. C'est comme un suicide, en fait, pour elle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maison d'accueil, il n'y a pas des foyers d'accueil. Et ça veut dire quoi aussi, ces foyers d'accueil? Ça veut dire qu'il faut que ce soit à vie. Parce que si elle part de sa maison et de son village, c'est comme si c'était la honte sur tout le village et sur toute sa famille. Et si même si elle revenait, ça veut dire qu'elle serait assassinée par l'entourage, comme on a vu des cas de lapidation et des cas d'assassinat. C'est une grande honte, donc elle n'est absolument pas soutenue par personne. Le gouvernement ne fait rien. Encore plus aujourd'hui, avec le départ de la communauté internationale en 2014, la société civile n'est pas assez développée, les organisations internationales, malheureusement, ont une très mauvaise connaissance de la société afghane, donc il n'y a pas ce genre de foyer, il n'y a pas de suivi aussi, c'est-à-dire qu'on crée quelque chose, on sait très bien que cette ONG peut-être va partir l'année prochaine ou dans 2 ans, parce qu'il n'y a pas de budget de financement, donc ça veut dire que cette femme se retrouvera où? Donc il n'y a aucune structure, c'est comme partir de chez elle, c'est vraiment une forme de suicide pour ces femmes.
Selon l'ONG Human Rights Watch, il y aurait de plus en plus de femmes qui se retrouveraient en prison justement parce qu'elles ont fui leur foyer. Est-ce que c'est un moindre mal, entre guillemets, par rapport au cas de lapidation dont vous parliez ?
Écoutez, je vais vous dire une chose, et j'en ai la chair de poule moi-même, c'est que les femmes afghanes sont dans une situation de désespoir tellement terrible que je pense qu'elles n'en sont pas là à se poser la question quel est le moindre mal, est-ce que la prison, etc. C'est qu'elles partent, elles sortent parce qu'elles n'en peuvent plus. Je pense qu'elles pourraient mourir sur la route, que ce serait exactement la finalité qu'elles recherchaient. Il n'y a pas de calcul, c'est juste le désespoir à l'état pur et elles n'ont pas, je pense pas qu'elles ont réfléchi. La plupart ne savent même pas ce que c'est qu'une prison quand elles viennent des villages reculés. Elles savent simplement qu'avec cet acte, elles ont vraiment signé le plus terrible. C'est que sortir du village et de la maison, c'est comme si voilà, elles étaient au-devant de la mort.
Il y aurait aujourd'hui 800 femmes en prison pour avoir quitté leur foyer. Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer quelles sont leurs conditions de vie en prison? Est-ce qu'on vient les voir? Qu'est-ce qui se passe quand elles en sortent?
Je reviens toujours à la même chose, à la honte et au qu'en dira-t-on. Souvent, elles n'ont pas beaucoup de visites. Même si elles ont été... je vous racontais un cas, il y avait une jeune fille qui était enceinte et j'étais la voir en prison en 2007 à Kaboul. Et donc, je lui demandais pourquoi elle était là. Est-ce qu'elle recevait des... Elle était sur le point d'accoucher, elle était dans un mauvais état de santé. Et en fait, elle avait été violée. Et je lui ai demandé où était le violeur. Le violeur, il a fait une semaine de prison, il a été relâché, sa famille est venue chercher. Elle, jamais personne n'a réclamé qu'on vienne la chercher. Elle était enceinte, elle était dans l'attente de preuves qu'elle a bien été violée alors qu'elle allait accoucher de cet homme-là. Et donc elle était là, elle avait la famille ne venait pas parce que c'est une honte d'avoir une fille qui a été violée et qui se retrouve en prison, etc. Et donc elle en attendait de savoir si elle était bien la victime ou consentante puisqu'on n'avait pas de preuve qu'elle a bien été violée et elle était là enceinte. Donc ça c'est aussi la réalité de ce pays. Ça aussi, c'est la réalité des prisons à Kaboul. Au niveau sanitaire, je ne vous parle même pas. Au niveau alimentaire, je ne vous parle même pas. Mais c'est vrai que dans l'échelle de malheur et de choses terribles, peut-être que c'est le moindre mal, je ne sais pas. Mais ça m'étonnerait quand même, quand j'ai visité ces prisons, quand j'ai vu ces femmes, je ne pense pas que ça ait été des mieux aussi.
Vous parlez de preuves. Alors, parmi les femmes incarcérées, certaines sont victimes, on le sait, de fausses accusations. Pourquoi est-ce que leur famille les dénonce et pourquoi est-ce que la justice les envoie finalement en prison sans procès, sans preuves?
Écoutez, moi, la justice, je pense qu'ils ont... Il y a trop de cas en Afghanistan, c'est un pays où aujourd'hui il n'y a pas de structure, même la justice n'est pas bien mise en place, il y a la corruption à toutes les échelles de la société, des ministres jusqu'en bas de l'employé de base qui est votre interlocuteur dans n'importe quel ministère ou mairie ou préfecture. Et je pense que les femmes, d'autant plus qu'elles n'ont pas les moyens, la justice afghane n'en a rien à faire aujourd'hui des cas des femmes. Vous avez le seul journal féminin afghan aujourd'hui qui existe, qui s'appelle le journal Rose, que nous publions chaque mois pour lequel on a un mal fou de trouver des financements. Nous avons les journalistes dans le journal Rose chaque mois parlent de la violence faite aux femmes et des cas d'assassinat et des cas des fausses accusations, etc. Tous les mois, on a des dizaines de portraits de femmes qui subissent ça et où la justice, absolument aucun ne fait rien. On a même des gens très connus, des femmes connues qui ont été assassinées, des journalistes à la télé, etc. Et à chaque fois, l'excuse, c'est crime passionnel. Bien sûr, c'est très simple. Une femme qui est assassinée, c'est toujours... Il y a eu une histoire, certainement, qui a eu un crime passionnel. Donc, moi, je ne crois pas du tout. Aujourd'hui, la justice afghane n'est absolument pas bien faite au niveau global. Pour les femmes, c'est encore pire. Et je pense que c'est aussi la chose la plus facile, se débarrasser d'une femme, que ce soit au niveau familial et dans un village, c'est d'essayer de l'accuser, etc. Et comme ça, on sait qu'elle sera rayée de la société.
Que la justice soit conservatrice, qu'elle favorise la parole des hommes par rapport à celle des femmes, mais quand même, il n'y a pas une loi, un décret qui date de 2009 pour protéger les femmes, notamment les femmes mineures de moins de 16 ans, des mariages forcés?
Dans la même année, il y a eu aussi un autre décret qui... disait que le viol dans le couple par le mari, ça n'existait pas, qu'un homme pouvait... la polygamie était autorisée, etc. Donc, dans la même année, pour faire plaisir, le président Karzai a aussi fait un décret dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a eu un groupe de fondamentalistes qui est venu le voir, certainement pour lui donner son soutien. Et en échange, le président a lancé aussi un décret pour autoriser beaucoup de violences faites aux femmes. Donc on a quelque chose et son contraire. Mais après, pour le décret positif et les lois positives, ne serait-ce que la constitution afghane qui reconnaît les mêmes droits aux hommes et aux femmes, pour ça, il faut avoir un degré de connaissance. Pour ça, il faut savoir ce que c'est qu'une loi. Pour se défendre, il faut avoir accès à l'éducation. Là, on parle d'un pays à 98% d'analphabétisme pour les femmes. C'est pour ça que moi, je me bats pour l'éducation au quotidien et l'école au quotidien pour les petites filles et les femmes. C'est que c'est comme ça aussi qu'elles comprennent. Quand vous êtes analphabète, que vous connaissez rien et qu'on vous dit, vous faites comme ça parce que c'est écrit dans le Coran ou parce que c'est la culture qui veut ça et que vous savez même pas ce que ça veut dire le mot loi ou constitution ou décret, ça vous fait une belle jambe, pardon de dire ça, mais c'est vrai, je veux dire, quand vous avez accès à rien et qu'on vous dit voilà, il y a un décret, alors je suis pas en train de dire qu'il faut pas de loi, il faut pas de décret, il en faut, et on a besoin d'avoir un pays sain, entre guillemets, qui reconnaît une reconnaissance aux femmes, mais à côté de ça, il y a tout ce travail au quotidien de fourmis dans les villages, dans le pays, auprès des femmes, pour leur expliquer ce que c'est que leurs droits les plus basiques.
Est-ce que les pères de famille acceptent ou ont envie que leur fille aille à l'école ?
Le progrès devrait venir par là aussi. Bien sûr, il y a des dizaines de provinces et de villages où les pères de famille, les grands-pères sont tellement fiers de vous montrer le bulletin scolaire de leur petite fille. Et je pense que c'est par là aussi qu'on arrive à changer les mentalités, par les pères qui sont aussi fiers d'envoyer leur petite fille à l'école, et que ces femmes-là, ce seront aussi les femmes libres de demain. Et c'est pour ça aussi que travailler dans l'éducation de manière continue et pérenne, pour moi, c'est exactement le même degré de priorité qu'un programme alimentaire quand une population meurt de faim. Et pour moi, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que depuis 15 ans, je me bats pour l'éducation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, où on me dit « qu'est-ce qui va se passer ? Alors, les écoles d'Afghanistan libres vont être fermées, vous ne faites plus rien parce qu'en 2014, la communauté internationale part. » Moi, je me dis non, au contraire. C'est maintenant que l'Afghanistan est à un moment charnière. C'est maintenant que c'est le plus important pour les femmes. C'est maintenant, plus que jamais, même si on en parle beaucoup moins de l'Afghanistan, qu'il faut soutenir ce peuple et qu'il faut soutenir ces filles. Parce que je vais vous dire une chose très simple et terrible. Si la communauté internationale part, que les talibans reviennent, comme ils reviennent déjà par les villages frontalières au Pakistan, non seulement ils sont terribles parce que c'est le régime taliban Al-Qaïda, mais en plus il y aura le sentiment de vengeance vis-à-vis des hommes et des femmes qui ont collaboré avec la communauté internationale. Et en plus de ça, le gouvernement en place ne sera même plus vigilant puisqu'il n'y a plus la présence internationale. Donc on n'est plus du tout jugé pour les fonds, etc., pour la bonne conduite vis-à-vis des femmes. Donc c'est vraiment la porte ouverte à tous les excès. Et moi je m'inquiète plus pour les femmes parce que malheureusement, comme l'histoire nous le montre, que ce soit après une révolution, que ce soit après les guerres, que ce soit pendant la période de crise économique, ce sont toujours les femmes qui sont les premières cibles.